Fréquence Mistral, RAM 05 et RCF Alpes-Provence. En direct du festival Touste dehors enfin,
en partenariat avec le théâtre La Passerelle. Lucie Moussali,
Suzanne Toboz,
Oriana Castro.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du festival de Touste dehors enfin en direct du hall du théâtre de la Passerelle, scène nationale. Alors à l'image de ce festival, c'est un plateau à trois voix avec Oriana Castro pour RAM 05. Bonjour Oriana.
Bonjour Suzanne.
Avec Lucie Moussali pour Fréquence Mistral. Bonjour Lucie.
Bonjour Suzanne.
Et moi-même donc pour RCF Gap Alpes-Provence. Donc trois voix, trois radios. Et c'est un week-end où on va courir pendant trois jours. On va danser, sauter, tomber, ramper, escalader, basculer. Vous l'avez compris, les corps vont être en mouvement. Et c'est la thématique de ce festival, cette 13e édition, 13 compagnies, 32 représentations. Et on a avec nous donc, le directeur du théâtre La Passerelle, Christian Lalot. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors ça y est, un bon cardio mis en place déjà la veille, hein, vendredi.
Exactement, avec une heure de course sur le stade. Moi, j'ai pas couru, mais ça a donné le tempo en tout cas, voilà.
Alors je passe le relais à mes collègues pour vous interroger déjà sur ce fameux rendez-vous et la construction de votre festival.
Alors moi j'avais une première question puisque en fait on a remarqué dans cette 13e édition du festival Touste dehors qu'il y a des représentations dès le matin, ce qui est assez nouveau. Là c'était la première matinée, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce que les Gapensaises et Gapensais étaient matinaux?
Eh ben ils sont matinaux. Il y avait beaucoup de monde dès le premier spectacle à 9h15, à peu près 500 personnes estimées. Oui, c'est enfin en tout cas pour revenir sur cette idée du matin, c'est un choix, je crois qu'on va sur les festivals d'été, de voir, en tout cas quand on est à l'extérieur, s'adapter aussi aux changements qui se produisent climatiquement. Alors quand on programme, on peut pas savoir quel temps il fera. Alors la chance, c'est qu'il fait beau cette année, mais c'est vrai que l'année dernière, on avait un peu tiré le bilan d'une journée du dimanche qui avait été très chaude, et notamment sur des spectacles qui étaient sur des places un peu plus minérales en tout début d'après-midi. C'était à la fois, les gens étaient là, mais c'était quand même complexe et pour les artistes et pour le public. Et donc on a effectivement, et on l'explique dans le petit programme du festival, choisi d'articuler la journée un peu autrement, commençant plus tôt le matin et jusqu'à au milieu de journée, moins de choses sur la première partie de l'après-midi, et puis reprendre plutôt voilà sur la fin de journée et la soirée pour le confort de tout le monde finalement, et c'est quand même plus agréable, voilà.
Et puis un retour en tant que spectatrice aussi, c'est que ça nous permet de voir beaucoup plus facilement toutes les représentations. Ça, c'est quand même assez agréable. On a moins la frustration de rater des choses. Est-ce que ça faisait partie des raisons de ce choix?
Oui, ça faisait partie. En tout cas, il y a toujours une attention particulière à ce que sur les deux jours, quelqu'un qui voudrait normalement tout voir peut y arriver. Donc, comment ça s'articule, voilà, et en tout cas de pouvoir circuler. Effectivement, comme la plage semble plus longue, on arrive à se promener au cours des deux jours, et donc on peut normalement tout voir.
Alors Christian, moi j'avais une question. Vous êtes arrivé au Théâtre La Passerelle l'année dernière. C'est donc votre deuxième édition du Festival Touste dehors et c'est la première que vous menez de bout en bout. Est-ce qu'il y a peut-être plus de votre personnalité dedans aussi, j'imagine? Qu'est-ce que vous avez voulu changer?
En fait, c'est vraiment la deuxième édition parce que la celle de l'année dernière, on l'avait construite, enfin je l'avais construite aussi. Il y avait quelques pistes qui avaient été laissées par Philippe Ariagno, mon prédécesseur, de bonnes pistes d'ailleurs. Et donc ça a été vraiment la première construction que j'ai pu faire, c'était ce festival. Donc c'était formidable. Et ça a été oui, peut-être qu'il. En tout cas, je voudrais insister que c'est vraiment une aventure collective le festival. Donc je bien sûr il y a toujours quelqu'un à la fin qui décide ce qu'on montre. Mais je suis pas le seul à aller voir des spectacles. Vraiment, on est dans l'équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, voilà, on se partage aussi des repérages dans différents festivals, etc. Et vraiment, c'est une construction à plusieurs. Donc, voilà, chacun raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a aimé, et après. le travail collectif, c'est aussi quel fil on a envie de tirer. Alors il y a des choses qu'on a adorées et qu'on aurait aimé montrer, puis c'est pas la bonne édition, et puis peut-être des choses qu'on a vues il y a longtemps, on se dit tiens, ça c'est le bon moment, c'était pas encore passé. C'est vraiment une alchimie de l'histoire qu'on a envie de raconter, une programmation en fait, c'est pas juste poser des spectacles quoi, voilà. Et après c'est comment ça se raconte dans l'espace, c'est-à-dire trouver le bon endroit pour chaque spectacle.
Et sur cette édition, justement, le corps a été mis à l'honneur. Pourquoi ce choix ?
Bah, il se trouve qu'en fait, d'une part, on a aimé beaucoup de choses où le corps était effectivement mis en jeu de manière très différente, soit d'un niveau extrêmement physique, soit poétiquement, soit dans des mélanges d'écriture aussi. Parce que, par exemple, le spectacle de ce matin, une, je crois qu'ils vont venir juste après, bah, il y a aussi cette dimension à la fois d'un engagement physique, d'un théâtre physique, et en même temps, la parole est éminemment présente. Donc c'est vrai qu'on a... Voilà, quand je parlais de couleurs ou en tout cas de ce qu'on a envie de raconter dans une édition, ben c'est un petit peu passé par cette idée du corps. Et je crois qu'en fait c'est aussi ce qui nous rassemble et comment on donne une représentation de ce corps dans l'espace public. Et il y a plein de manières. Et en fait il y a plein de manières aussi d'être différent. Et je crois que la proposition d'ouverture qui était une proposition participative grand format puisqu'il y avait une centaine de coureurs hier soir sur le stade. Elle a montré aussi cette énergie collective et à la fois comment on pouvait être unis dans nos différences. Alors il y a bien sûr eu les coureurs coureuses liés à la question du sport adapté, mais pas que. On a tous des physiques, des énergies, des possibilités différentes. Mais c'était un peu cette célébration là qu'on avait aussi envie de mettre au cœur de l'édition de cette 13e édition.
Alors, moi, ce qui m'a touchée hier soir, des retours que j'ai eus, c'est que parmi les coureurs, effectivement, il y en a qui sont sportifs et d'autres pas du tout, et que ceux qui étaient en souffrance, il y avait une forme de dépassement pour le collectif et puis pour faire plaisir à tout le monde. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment touchant en termes de retour.
Ouais.
C'est le spectacle, ça sert à ça aussi ?
Ouais, enfin, je crois qu'il y a une dimension vraiment émancipatrice, et je trouve que ce qui est encore... Ce que nous on retient et ce qu'on a perçu, on pense que l'émotion a été palpable hier soir, c'est l'aventure humaine avant tout. C'est-à-dire que la performance, elle est là d'une certaine manière parce qu'il y a cette idée de collectif. Mais ce qui, je crois, est le plus important, c'est cette aventure humaine qu'à la fois ils ont vécue, qu'ils ont partagée avec nous et qu'on a pu ressentir. Et c'est ça. Je crois qu'il y a, enfin, moi, je crois encore vraiment que la culture a cette vertu émancipatrice. On peut revenir sur une dont je parlais à l'instant. On a, en fait, réouvert le festival à la Maison Barret jeudi avec ce spectacle-là qui a trouvé un écho incroyable avec les détenus qui y ont assisté. Et ça aussi, c'est comment on dépasse les murs et comment à un moment, par l'imaginaire, par l'art, on arrive à finalement ouvrir des petites portes, des fenêtres et puis
à exister différemment.
Exactement.
Se donner le possible d'être différent.
Exactement.
Les filles ?
Alors moi, je voulais revenir aussi sur l'essence même du festival Tous dehors, où il y a cette idée de déambulation dans la ville et de découverte, et puis on peut découvrir au hasard. Je m'interrogeais, Monsieur Lalos, sur vous en tant que spectateur, est-ce que vous aimez découvrir au hasard, ou est-ce que vous êtes plutôt du style à programmer très précisément pour pouvoir voir tout ce que vous avez envie de voir ? Comment est-ce que vous consommez entre guillemets le théâtre ?
En festival, alors bon, après c'est toujours biaisé parce que nous c'est notre métier entre guillemets, mais bien sûr il y a des choses qu'on veut absolument voir. Après l'énergie d'un festival, c'est justement aussi d'être attentif à l'écoute de ce qui bruisse. Il y a toujours des choses dont on peut à la lecture d'un programme passer à côté, puis on entend plein de gens ça en parler, puis on se dit tiens, soyons curieux, allons voir, c'était pas prévu, puis on bouleverse son programme. Moi je suis un peu entre les deux en fait, c'est-à-dire qu'il y a des points de passage que j'ai vraiment envie de voir, et puis après je me laisse aussi porter, et puis avec ce que j'entends, c'est aussi l'idée de quand on fait un festival sur 2-3 jours, bah on a cette opportunité là d'entendre ce qui se passe et puis de le respirer, puis de prendre des chemins de traverse.
Et puis il y a toujours une notion de, c'est toujours très nouveau, c'est-à-dire que même si vous-même connaissez plus ou moins les spectacles pour les avoir programmés, ils n'ont jamais été représentés sur les pavés de Gap, donc il y a aussi cette nouveauté-là de comment est-ce que l'espace...
Ouais, c'est toujours ce que je disais, cet écho entre où on place un spectacle, pourquoi on le place là, et donc effectivement il peut résonner différemment, et puis après il y a dans l'idée de la déambulation, puisque cet après-midi par exemple il y a Impact d'une course qui est vraiment un projet qui s'écrit avec la ville où ça se produit, donc c'est pour ça qu'il y a le gap entre crochets dans le titre, parce que ça sera la version à gap, il y en aura, elle sera non reproductible ailleurs, et donc comme ça s'appuie aussi sur les façades, les bâtiments, l'architecture, le parcours, il est inédit et il est vraiment, il prend vie uniquement ici, donc c'est ça qui est magique avec l'espace public.
Est-ce qu'il y a une représentation que vous avez particulièrement envie de faire découvrir aux Gapensais qui pourrait amener la surprise de ce week-end?
Le petit pas de côté et puis le projet peut-être qui va chercher du côté de l'absurde, c'est le travail très singulier de Nicolas Heredia et de sa compagnie La Vaste Entreprise, donc avec la Fondation du Rien, qui est vraiment un objet, une sorte d'ovni, voilà, qui est que moi, enfin en tout cas avec l'équipe, on a beaucoup aimé, et puis il fait faire aussi un pas de côté aux spectateurs sur ce rapport effréné au temps et comment on retrouve du temps pour soi, sans dévoiler la surprise, mais et à un moment, ne rien faire, c'est aussi génial, et c'est ce qu'il nous propose comme aventure au cours d'un spectacle. Donc à un moment aussi où dans un festival, on peut être, comment dire, dans une, justement, on en parlait avec un programme, on veut voir un maximum de choses, etc., etc., de créer peut-être cette respiration en contrepoint, c'est aussi un clin d'œil, hein, quelque chose d'assez drôle, en tout cas dans le décalage, de dire tiens, en pleine frénésie d'un festival, parce que c'est quand même ça toujours, un entre le monde et puis l'activité, c'est de se dire tiens, je prends un moment une parenthèse et ne rien faire, qu'est-ce que c'est, quoi, est-ce que c'est pas mal?
Moi, je dis toujours, l'ennui, c'est là où on est le plus créatif, hein, on est d'accord.
Exactement,
hein,
exactement.
c'est important dans le travail aussi de s'ennuyer.
heureusement qu'on ne fait pas que des choses exaltantes, parce que justement, elles n'auraient plus ce piment. Et quand elles deviennent exaltantes, il y a aussi des choses contraintes, compliquées. Et puis quand le moment est là, il y a une... Voilà, c'est un peu comme dans le spectacle, quand vous êtes spectateur et spectatrice. Heureusement que tout ne vous plaît pas et heureusement que tout n'est pas à une espèce de niveau d'exception, enfin pour vous, dans l'émotion, etc. Ça serait insupportable. Il faut parfois s'ennuyer, il faut parfois ne pas aimer des choses pour, en contrepoint, quand l'étincelle se produit, avoir ce moment un peu magique et que finalement on vient sans cesse rechercher quand on va voir un spectacle, quoi. Et ça se produit pas toujours et c'est tant mieux.
Il y a un plaisir aussi à avoir des retours moins positifs parfois, du coup, à se dire ah bah j'ai pas tant aimé ce spectacle, mais finalement c'est plutôt bien que je l'ai pas aimé. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez?
En tout cas, moi, c'est quelque chose que je revendique. C'est-à-dire que je préfère toujours quelqu'un qui vient me dire « j'ai détesté ça ». Et en fait, généralement, ça, c'est des choses qui laissent des traces et qui font travailler. C'est-à-dire qu'avec le temps, on essaie de comprendre pourquoi. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, en tout cas, c'est que ça vient chercher quelque chose quand même en soi qui vient perturber. Donc, c'est toujours intéressant de s'interroger. Le pire, c'est l'indifférence, finalement, de se sortir d'un spectacle qui nous a laissé indifférents, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, même un spectacle qui déplace, qui dérange, c'est bien.
Une autre question?
Oui, peut-être aussi pour le public. Justement, la gratuité de toutes ces représentations, ça permet de prendre des risques, de découvrir peut-être des spectacles qu'on n'aurait pas eu tant envie d'aller voir.
Ouais, sans doute. En tout cas, c'est aussi lié à l'esprit de la liberté qui parcourt les arts dans la rue depuis toujours. Et effectivement, c'est l'idée de s'adresser à tout le monde et que tout le monde ait, dès qu'il ait la curiosité, que tout le monde ait la possibilité d'aller découvrir peut-être des choses qu'il n'aurait pas fait spontanément. Donc c'est très important. Mais rappeler aussi que la gratuité, elle est possible grâce au service public de la culture et donc notamment à la question des subventions de nos institutions, de la ville à l'État, qui sont très présents sur le festival, et à cette économie-là. Sinon, ce ne serait pas possible de proposer cette gratuité-là. Donc c'est très important de le rappeler. Voilà.
On va faire une pause musicale.
Ah oui. En attendant de recevoir une qui va venir juste après vous. Merci beaucoup, Christian Laloz, d'avoir répondu à nos questions.
Merci, Christian.
Merci.
Merci à vous.
Es un aleo pa' que siempre estés adelante. Un poquito de melaza son y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un menejito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
On vient de faire une petite pause musicale avec Swing Astropical et Quantique. Donc, vous êtes toujours en direct depuis le hall du théâtre La Passerelle à l'occasion du festival Touste dehors sur 3 radios, sur RCF Alpes-Provence, sur RAM 05 et sur Fréquence Mistral. Nous avons interrogé Christian Lalos et nous recevons là à l'instant Mathia Magui et Clément Baudouin de la compagnie Pan dans le ciment pour le spectacle Une qui a fait une première représentation ce matin. Alors Oriana, je te laisse poser les premières questions puisque tu y as assisté ce matin même.
Oui, alors donc si j'ai bien compris, Mathia Magui, c'est vous qui étiez à l'écriture de ce spectacle.
Oui, alors je suis pas le seul à être à l'écriture, on était deux. On est deux en fait, il y a moi, il y a Tom Verschuren aussi, il y a aussi Clément Baudouin qui est à l'origine du projet. Donc en fait, on a écrit tout ça ensemble depuis, ça a mis quelques années pour écrire du coup la pièce.
Et vous avez du coup investi les escaliers du parvis du lycée Dominique Villard ce matin. Comment vous avez adapté peut-être ce spectacle à ces escaliers en particulier ?
Bah, on arrive toujours la veille pour faire un repérage et là pour le coup on essaie d'adapter, là on a utilisé les entrées et les sorties par la porte principale et aussi l'espace autour de l'escalier en fait. Donc on essaie par exemple de jouer dans l'escalier et aussi de jouer aussi avec le mobilier urbain autour, on est monté sur des conteneurs juste à côté. En fait on essaie en plus d'investir l'escalier, d'investir aussi l'espace aux alentours en fait. Donc ça nous prend à peu près 2-3 heures en fait, un peu d'adaptation, de réécriture un peu de certaines scènes en tout cas.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à ces escaliers ou non ?
Non, c'était super. C'était vraiment très bien. Puis le bon format, voilà. Des fois, ça nous arrive de jouer dans des escaliers beaucoup plus grands. Là, c'était vraiment le minimum qu'on pouvait avoir, donc c'était parfait en fait pour le coup.
Personne ne s'est foulé la cheville.
Non, et j'espère que ça va pas arriver.
Pas trop de bleu non plus, parce que...
Oh, ça a toujours un petit peu quand même.
En fait, on a des protections. On essaie de protéger les coudes et les hanches. Mais ça, c'est un secret, parce que c'est sous les vêtements. Donc les gens ne le savent pas, mais ouais, bon, on là, peut on le dire à la radio.
On a divulgué, mais bon, tant pis.
J'ai cru comprendre aussi que vous avez beaucoup de costumes, que vous enchaînez les personnages, vous représentez en fait plusieurs personnages. Parlez-nous un petit peu de ces personnages-là que vous représentez.
Alors, c'est pas mon personnage qui fait ça, c'est l'autre personnage, parce qu'on est deux sur scène, deux dans les marches, et il y a un musicien qui joue en live la musique qui a composé. Et l'autre personnage, en effet, c'est un personnage du coup dans une scène, il interprète en fait comme il fait partie d'une boîte d'intérim, mais en fait du coup il y a plusieurs couches de vêtements sur lui qui représente les différents métiers qu'il est en train de faire. Et moi, derrière, je lui enlève, je remets les vêtements en fonction du coup du métier qu'il est en train d'interpréter. Et du coup, ça représente un peu cet enchaînement de travail qu'on fait, qu'on est un peu obligé de faire, du coup, pour pouvoir vivre, en fait. Et du coup, c'est juste l'usure un peu et l'absurdité, en fait, de ces enchaînements de travail qu'on est toujours obligé de faire de plus en plus.
C'est un spectacle donc de théâtre, de danse et de musique. Je me demandais pourquoi avoir investi un passage. C'est pas rien un passage.
Alors ça c'est une question qu'il faudrait poser à Tom qui est pas là, mais moi je sais comment il répond à cette question. En fait, Tom c'est un lecteur de Georges Perec et qui a travaillé un peu sur ces lieux-là. Donc c'est voilà, c'est la partie un petit peu intellectuelle de notre écriture, mais en fait, qui a travaillé sur ces lieux un peu non dédiés, et justement pour, comme des lieux pleins de vie, justement. Donc, c'est vrai que les escaliers, ça paraît être des espaces où il se passe pas grand-chose, des lieux de passage, et pourtant, en fait, il se passe énormément de trucs dans les escaliers. Nous, on a fait l'expérience en travaillant, en s'installant dans les escaliers pour travailler notre spectacle, et on s'est rendu compte de tout ce qui s'y passait, de la vie. Et après, en fait, on s'est aussi, nous, rendu compte que jeunes ont traîné dans les escaliers, en fait. On s'y installe, et d'ailleurs, c'est comme cette espèce de paradoxe, en fait, de la jeunesse. C'est, on veut pas être vu, mais en fait, on fait des choses qui nous font voir. On veut pas déranger, mais en fait, on se met au milieu des escaliers. Il y a un peu cette tentative de dialogue dans les escaliers, quand même, avec la vie. Et du coup, on racontait ces jeunes qui se mettent dans des escaliers, qui y traînent, et voilà. Et il y a aussi cette notion de hauteur qui nous tient à cœur, qui était une recherche un peu au début de cirque, parce qu'on aimait bien ça, même si on n'est pas de très bons circassiens. On aimait bien les trucs un peu difficiles, et on voulait un module un peu en hauteur pour faire du théâtre de rue, et les escaliers, ça s'y prêtait bien.
C'est assez métaphorique, hein, les escaliers. On se rend pas compte comme ça en parlant simplement d'une volée de marche. On ne se dit pas que ça va être aussi plein de sens. C'est ce que vous avez découvert. On entend quand même que vous avez redécouvert des choses sur les escaliers, mais aussi en termes de signification. Qu'est-ce que vous avez redécouvert en vous appropriant les escaliers?
Bah, comme disait Clément, c'est un lieu de passage aussi, mais nous on a voulu utiliser l'escalier aussi un peu comme une métaphore de montée sociale, en fait. Donc on monte l'escalier comme on essaie de monter socialement aussi, et aussi le fait de stagner un peu dans les escaliers, de se poser, de zoner un peu dans les escaliers, il y a un peu, ça symbolise aussi un peu cette envie de aller plus haut et en même temps de se faire ramener vers le bas. Donc en fait, c'était d'un côté, c'était un module, entre guillemets, un agrès, comme on dit en cirque, qui était intéressant, parce que ça nous permettait aussi de découvrir une manière de bouger dans les escaliers. On a passé vraiment un temps au tout début de comprendre comment bouger dans ces escaliers, sans se faire mal aussi. Mais du coup, d'écrire vraiment des mouvements, d'écrire des chorégraphies, des mouvements qui n'étaient pas forcément propres à d'autres espaces, en fait, qui étaient vraiment propres à des escaliers. Et du coup, ça nous permettait aussi, après, d'être en hauteur. Donc, ce qui est assez important dans le théâtre de rue, parce que, au niveau visibilité, c'est plutôt agréable de pas être obligé d'essayer de voir le spectacle, mais de le voir plutôt bien. Ça nous fait une sorte d'estrade, en fait.
Et sur la force symbolique, c'était vraiment cette envie d'être un peu perché aussi. Parce qu'en fait, on a travaillé sur la jeunesse au début du projet. Mais après, ils grandissent, ces jeunes, mais il y avait ce truc d'être toujours un peu perché, de se mettre sur le dos des bancs, de se mettre en haut des escaliers, de se mettre dans le fond du bus, mais un peu... Enfin, un peu sur, parce qu'il y a un promontoire en haut, dans le fond du bus, qu'il y a les roues. Enfin, un peu ces espèces de cette tentation-là, de regarder le monde d'en haut. Et pour le faire très rapidement, c'est un peu comme ça qu'on a appelé le spectacle Une, qui est le promontoire qui est une sorte de promontoire d'un mât, une sorte de marchepied, qui permet de prendre un peu de hauteur, en fait, de regarder sa vie d'un point de vue un petit peu différent.
Alors, le spectacle est à la fois drôle, comique, il y a plusieurs passages qui sont comiques. Ce matin, le public a bien ri, j'ai eu l'impression. Mais il y a aussi un moment qui aborde peut-être la dépression et qui est plus dur. C'était important pour vous de mêler ces deux registres ?
Oui, je pense que c'est important. Depuis le début du travail de la compagnie, on essaie en fait de traiter des thèmes assez dramatiques, mais en mettant toujours une touche d'humour. En tout cas, on essaie quand même on s'inspire de d'autres artistes, comme ça peut être des artistes de Charlie Chaplin, mais en tout cas des artistes qui traitaient des thèmes un peu plus dramatiques, en y mettant toujours une couche d'humour, de comique pour faire aussi naître montrer aussi des scènes un peu absurdes. Et du coup, ça montre un peu les dynamiques un peu absurdes de la vie en manière générale, du quotidien. Et cette touche d'humour aussi, c'est important, justement, parce que ça, des fois, ça permet aussi de voir autrement la vie aussi. Mais non, forcément, le thème est dramatique, donc oui, au bout d'un moment, on est obligé que ça soit un peu triste.
Dedans, ouais, ça tombe dedans. Mais donc, en vérité, même pour la question de la dépression, de la santé mentale, en fait, je sais qu'on voit ça comme quelque chose de très malheureux et tout, mais je pense qu'il y a quand même du rire, il y a quand même de la joie, il y a quand même... nous, on rigole beaucoup et ça ne nous empêche pas d'avoir aussi parfois des santé mentales un peu fragiles entre nous. Enfin, en tout cas, sur les 10 ans qu'on a travaillé ensemble, c'est certain. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer de rire et de continuer à rire. D'autant plus, d'ailleurs, je pense que c'est assez symptomatique de rechercher de la joie donc quand on en manque un peu, quoi. Donc la question de la dépression, elle est arrivée parce que bah déjà je pense que c'est des expériences de vie qu'on fait toutes et tous un peu, de plus ou moins de loin, soit ou alors ou les gens qui nous entourent et tout ça. Mais après c'est aussi voilà, on voulait je pense que nous on l'a perçu comme un gouffre dans lequel on tombait inévitablement quelque part de par les violences de la société, de par les violences du travail et de par les violences que un des personnages dans le spectacle subit. Je vous dis pas lequel pour que vous veniez, mais il y a une sorte de côté inévitable. En tout cas, on le raconte comme ça. On le raconte comme une conséquence d'une société violente et pas comme une sorte de maladie psychique qui serait genre de naissance où on serait de naissance indépendante et du coup on serait dépressif de naissance parce que notre père non il y a aussi une fragilité qui vient s'écraser il y a aussi une société qui vient s'écraser quand même sur les corps quoi.
Alors parmi les conséquences de la société, vous parlez aussi un petit peu, en tout cas dans les notes d'intention du spectacle, des laissés pour compte de ceux qu'on laisse derrière. Est-ce que ça fait partie aussi des choses qu'on peut voir dans les escaliers, dans les espaces de rue? Comment est-ce qu'on représente ça?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, moi j'ai un monologue dans le spectacle où je parle de silhouettes en carton, en fait, comme si on était des silhouettes en carton qui faisaient partie du décor. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, il y a des figures qui représentent ça, c'est-à-dire qu'il y a, ça peut être des gens qui sont en détresse, ça peut être des SDF, en fait, donc ça peut être ces figures, en gros, qu'on voit qui sont posées, qui sont échouées un peu à des endroits de la ville, et que nous, comme ça, on passe autour et sans forcément les voir. Parfois, on les voit, parfois, on les voit pas. Et du coup, c'est un peu des invisibles, en fait, mais qui font partie du décor, malgré tout, en fait, sont là. Comme ça reste des humains. C'est pas juste des silhouettes en carton. Ça reste... Et du coup, on voulait donner aussi un peu une voix, aussi, en tout cas, une image, quelque chose de les faire entrer un peu plus dans le récit, en tant que protagoniste et pas juste en tant que décor, en fait. Donc, parce que, en vérité, ça peut arriver un peu à tout le monde. On sait pas, voilà. Ces formes de détresse, que ce soit plus ou moins grande, on se retrouve parfois à être un peu à côté de nous-mêmes, en fait.
Ouais, c'est ça, la silhouette en carton, elle raconte assez bien cette image-là, l'idée qu'on est un peu en dissociation de notre propre vie, ou qu'on n'a plus trop accès à la vie, qu'on traîne, on erre. Mais il y en a dans la rue, il y en a aussi dans les bureaux, enfin, il y a des gens qui sont comme ça, en errance, quoi. Et nous, c'était important de parler de ces gens-là, non pas parce que c'est forcément des parcours qui nous intéressent, mais c'est des figures qu'on ne voit pas forcément hyper bien au théâtre, quoi. Ça tente une sorte de critique un peu du théâtre, mais c'est aussi des personnages qui sont pas des personnages bourgeois, qui sont des personnages qui ont des problématiques un peu absentes, en vérité, d'errance, des espèces de... qui ne savent même pas vraiment, quoi. Et qui sont plus que des corps agités, quoi.
Il y a des politiques d'urbanisme aussi qui essayent d'empêcher certaines personnes de s'installer. On pense aux personnes sans domicile fixe, mais aussi, par exemple, à des jeunes qui n'ont pas le droit de se regrouper à plus de 4, par exemple, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose auquel vous pensiez en écrivant ce spectacle ?
Oui, moi je trouve que c'est assez important de parler de ça parce qu'on a l'impression que du coup l'espace extérieur, c'est-à-dire l'espace public en dehors de chez nous, ça devient un espace qui devient de plus en plus inaccessible. Et que ça soit en termes de manifestations politiques ou pas politiques, culturelles aussi, on a l'impression qu'en fait, l'espace extérieur, c'est pas un espace qu'on a le droit d'habiter. Peu importe la manière dans laquelle on veut l'habiter, mais en fait, on nous cloisonne de plus en plus chez nous. Et je trouve que c'est important de parler de ça aussi, parce qu'en effet, c'est peut-être... pas forcément la manière la plus intéressante de zoner dans des escaliers, mais mine de rien, ça représente des espaces dans lesquels on se retrouve et qui sont importants aussi pour certains et certaines. Et je pense que c'est aussi, ça fait naître certaines choses, mais je pense que c'est quand même important que l'espace public, ça reste public.
Et d'autant plus qu'on ne vit pas dans les mêmes endroits. Il y a des gens qui vivent dans des petits espaces, des gens qui vivent dans des grandes maisons. Et du coup, l'espace public, c'est quand même un espace de commun qui, d'un coup, vient repartager l'espace pour tout le monde pareil. Et que si on se cloisonne à nos espaces privés, on risque d'être... ça renforce les inégalités de beaucoup, beaucoup plus, quoi. Et je pense qu'on l'avait vu pendant le Covid, par exemple, que c'était complètement inégal de s'enfermer dans 25 mètres carrés plutôt que dans 150. Et du coup, je pense que la rue doit être un espace d'épanouissement, justement, pour retrouver un peu de... au moins là, quoi. Enfin, ouais.
Alors ça, c'est des choses qu'on pourra découvrir ce soir à 18h sur le parvis du lycée Dominique Villard et demain également à 9h30, toujours sur le parvis du lycée Dominique Villard. On va vous laisser, Mathias Magy et Clément Baudouin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va faire une petite pause musicale avant de recevoir nos invités suivants. Encore merci.
Merci à vous. Merci.
C'était No One de David Walters. On est toujours en direct depuis le théâtre La Passerelle.
Et oui, nous sommes dans le hall à l'occasion du festival Touste dehors. Nous recevons beaucoup d'artistes dans cette émission en direct depuis RCF Alpes-Provence, RAM 05 et Fréquence Mistral. Et nous recevons à l'instant la compagnie Contrepoint qui va nous parler du spectacle Solstice. Pardon, très exactement, nous recevons Rémi Pénard et Pierre Bertrand. Rémi, bonjour.
Bonjour.
Et Pierre, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vos spectacles, vous avez déjà fait une première représentation à 11h ce matin. Comment ça s'est passé avec ces premiers rayons de soleil ?
Ah, c'est super bien passé. Il y avait énormément de monde. Je crois que j'ai entendu parler de 700 personnes. Ça a été hyper bien accueilli. On a eu des applaudissements très chaleureux. Beaucoup de monde sont venus nous voir à l'issue du spectacle. Non, c'était super.
Alors... Oui, Suzanne, vas-y.
Alors, je le rappelle, donc c'est un spectacle cirque qui mêle musique et danse. Donc, vous, votre spécialité, c'est la roue cire. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit exactement ?
La roue cire, c'est un anneau qui fait environ 2 mètres de diamètre. En fait, elle dépend de notre taille. Et c'est un anneau qui fait 15 kilos, qui est en aluminium, avec recouverte d'un revêtement pour pas que ça glisse. Et donc c'est un agrès très épuré comme ça, c'est vraiment un cercle dans lequel on évolue au sol, voilà, et avec lequel on fait différentes figures. Et c'est une pièce qui est écrite comme une composition de danse, écrite par Yann Rabalan, qui est chorégraphe.
Vous-même, donc vous venez du milieu du cirque tous les deux ?
Mm-hmm. Oui, c'est ça, on a tous les deux fait des formations en école de cirque.
On présente votre spectacle comme deux âmes sœurs, parce qu'il y a beaucoup de synchronicité. Il faut foncièrement s'apprécier pour mener un spectacle comme ça de concert.
Oh bah oui, mais après c'était un choix de la compagnie, je crois, de nous faire travailler tous les deux, parce que Pierre et moi on se connaît depuis très longtemps, depuis 20 ans peut-être même.
On a fait une école de cirque ensemble il y a 20 ans. Ouais.
C'est ça, on était en école préparatoire ensemble et puis en fait depuis on a continué à travailler ensemble un peu à bâton rompu. Selon les projets. On travaillait ensemble, on avait aussi chacun nos projets indépendamment l'un de l'autre.
Est-ce que, parce qu'on parle toujours de synchronicité, est-ce qu'il y a un rythme, un cœur qui bat, quelque chose qui fait que vous êtes connectés l'un à l'autre dans vos mouvements ?
Il y a, en fait, la roue, elles font le même poids et la même taille, nos roues. Donc il est facile de chercher à les faire tourner, rouler ensemble. Mais c'est vrai qu'elles ont leur propre inertie. Et à nous de, avec le, alors l'habitude, ça fait 20 ans qu'on fait ça ensemble avec Rémi, mais aussi on s'est beaucoup parlé pendant la création pour trouver un langage commun et un rythme commun. Et tout l'enjeu de ce spectacle, c'est ça, c'est l'écoute. Il y a la musique aussi de Guillaume Bongiro qui compose et qui joue en live, mais les consignes du chorégraphe, c'est de ne pas coller à la musique.
Ah oui.
Ouais. Donc la musique est parfaite. Nous, on essaie de l'être aussi. Mais c'est pas sur le rythme de la musique.
Et c'est sur quel rythme alors ?
Eh bien, c'est un peu ce que dit Pierre, c'est-à-dire que du coup, nous, on a une contrainte très forte qui est liée à l'objet, de par sa taille, son poids, l'inertie qu'il a et les directions de mouvement qui sont impulsées. Et
mais c'est vous qui donnez quand même l'impulsion, le rythme, non ?
C'est ça. On a des repères musicaux, évidemment, avec Guillaume, mais qui sont plus des balises qui permettent de savoir. Lequel est un peu en avance ou un peu en retard, et enfin, ça permet de mesurer en fait les décalages qu'il peut y avoir, et ça permet de se retrouver à certains moments. Mais oui, en tout cas pour nous c'est un peu la difficulté, c'est qu'en fait c'est pas juste Pierre, Guillaume et moi, c'est qu'en fait on est 5. Il y a le musicien, il y a Pierre, enfin il y a les deux interprètes et les deux roues, parce que c'est un objet en fait qui a sa propre autonomie, qui est limitée dans le temps, une trentaine de secondes environ, et voilà, ça c'est des choses avec lesquelles on joue pour la gestion de l'espace, c'est-à-dire que des fois on va laisser l'objet tourner d'une certaine façon à un endroit du plateau, et puis pendant ce temps-là avec Pierre, nous on continue notre partition à un autre endroit du plateau, et on a une gestion de l'espace un peu comme ça qui est définie par l'écriture chorégraphique, et donc voilà, on doit jouer avec tous ces aimants-là. Et donc effectivement, on impulse une direction, une façon de se déplacer à l'objet, mais en fait, on est dépendant de l'objet essentiellement.
De son inertie. Ouais.
Alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même une grande notion de la musique. Vous venez de parler de partition. Il y a cette notion aussi de synchronicité, puis de temps en temps quelques décalages, quelques contrepoints. Vous avez également évoqué qu'il y a ce travail avec Guillaume sur lequel vous avez des points d'appui musicalement. Comment est-ce qu'on est précis ? Est-ce que vous avez vous-même en tête une sorte de partition pour être précis sur vos décalages et les contrepoints, puis revenir ensemble en étant en synchronicité ? Comment est-ce qu'on travaille cette précision-là ?
La pièce dure 30 minutes et la partition dure 30 minutes, autant pour Guillaume que pour nous. Donc tout est écrit. On n'a pas de plage d'improvisation dans ce spectacle. Et donc, c'est comme, j'imagine, une partition de musique. C'est quelque chose que tu apprends, que tu digères, que tu apprécies au sens aussi de... Tiens, comment je vais faire ce mouvement, même s'il a été pensé comme ça, il faut aussi l'adapter à la façon dont le fait l'autre, parce qu'on n'a pas exactement la même taille, c'est quasiment la même taille, mais et du coup, on n'a pas la même appréhension des fois de l'objet, donc il faut sans cesse s'accorder, sans cesse... voilà, et ça, bon, c'est un peu derrière nous, mais ce matin, après la première, quand même, on a fait... on s'est fait 10 minutes de retour avec Rémi pour dire, tiens, là, est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça, etc. Donc le sol est divisé en 4 parties, c'est un espace de 9 mètres sur 9, et un espèce de petit damier comme ça qui est visible que de nous quasiment, qui divise l'espace en quatre, qui nous donne des repères spatiaux.
Ouais, c'est bien technique quand même.
oui, on a besoin de repères dans l'espace assez précis. C'est vrai que la plupart du temps on se repère par rapport à ces quatre carrés, mais parfois ça varie, des fois on en met 6, des fois on en met qu'un seul. En fait, ça dépend vraiment des mouvements de l'objet qu'on lui donne, parce qu'elle a plusieurs façons de se déplacer. Des fois, elle tourne, des fois, elle roule. Enfin, bref, il y a un
champ lexical. J'avais une autre question. Alors, moi, j'ai jamais fait cet exercice-là. Je l'ai jamais testé. Et je me disais, c'est une autre manière aussi d'habiter son environnement que d'être prise dans un cercle. Et en même temps, il y a un mouvement comme ça, circulaire, qui crée un peu de légèreté ou pas? Qu'est-ce qui se passe en vous, en fait, quand vous êtes dans ce cercle?
Ben, souvent, quand je parle de cette pièce, je dis qu'elle est très bien écrite parce que la danser, c'est très agréable. Donc, voilà, il y a quelque chose, effectivement, moi, je vais parler pour moi, je me laisse souvent emporter par à la fois la musique et à la fois l'écriture, à la fois ce que donne cette roue et mon partenaire qui est assez rondoïforme comme ça. Il y a quelque chose de groovy un peu. Voilà, c'est assez rond.
Oui, c'est ça. Et puis c'est assez facile de se laisser porter par l'élan. C'est hyper grisant. C'est-à-dire que des fois, on peut rentrer dans des suspensions. On est complètement suspendu, accroché par les bras, et puis on laisse les pieds s'envoler comme ça par l'inertie. Et on est vraiment dans une sensation de vol, de glisse. C'est hyper agréable.
Et il y a aussi, il y a quelque chose qui semble assez poétique dans cette représentation. On l'a dit en introduction, vous représentez deux amis, deux âmes sœurs même. Il y a aussi une notion d'astre avec le titre Solstice. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter, vous, en tant qu'interprète, quand vous jouez cette pièce?
Alors, l'âme sœur, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Hein, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai.
Mais non.
Ah bon, voilà, on n'est pas d'accord.
Pour le coup, c'est ça, c'est-à-dire que des fois, on se retrouve très fort et puis des fois, on n'est pas d'accord.
Alors,
pour le coup, je me souviens qu'il y a 20 ans, on nous prenait pour des frères. On nous posait les questions, on nous demandait si on était frères.
Mais pas d'âme quand même.
Non. Qu'est-ce que frères d'âme.
On est frères d'âme.
C'était quoi la question?
Qu'est-ce que vous avez envie de raconter quand vous interprétez
le solstice?
Mais en fait, tout à l'heure j'ai répondu ça à quelqu'un. Je crois que pour moi, je parle de moi, je pense que c'est de l'art contemporain, de la danse contemporaine, et c'est un des principes de l'art contemporain, c'est-à-dire que le public a l'espace normalement. S'il y a de l'espace dans cette pièce, je crois, pour se raconter ce dont il a envie. Et en fait, je crois que chacun peut y voir ce qu'il veut. La confrontation, du soutien, de l'amour, de la rivalité, ou alors au contraire de l'harmonie, je sais pas, c'est plein d'adjectifs que j'ai déjà entendus.
Mais le solstice, c'est quand même un mot très particulier. C'est ou le solstice d'hiver, ou le solstice du printemps, de l'été. Enfin voilà, c'est un moment, c'est un pic dans le circuit de la Terre et du Soleil. Pourquoi ce terme?
Eh bien, parce que l'objet en lui-même et la façon dont il bouge, il porte en lui quelque chose d'un peu tellurique, qui réfère un peu à ce qui se passe dans l'univers. Et c'est un peu ce qui se joue, nous, dans notre partition. C'est-à-dire que des fois, on va en contrepoint, et puis les choses vont s'inverser, et puis il y a le moment où on est ensemble. Voilà, c'est ce moment-là, le solstice. Ça correspond à ça. Et ça fait écho aussi à cette pièce. En fait, c'est un peu comme si c'était la petite sœur d'une première qui s'appelait Ellipse, où là c'était il y avait qu'une seule roue et qu'un seul interprète au plateau. Et voilà, il y avait déjà un peu cette notion de circularité, de choses qui se répètent. Sauf que là, en plus, il y a le contrepoint et ces moments d'équilibre et de déséquilibre.
On pourra découvrir tous ces mouvements-là, justement, cet après-midi à 15h au parc de la Pépinière, dans le secteur Pin-Laricio. Et puis également demain, le dimanche, à 15h15, toujours au parc de la Pépinière, pour la pièce Solstice. Je le rappelle, vous êtes Rémi Penard et Pierre Bertrand. Merci beaucoup d'être venus
sur
notre plateau.
Merci à vous.
Merci. Alors voilà, c'était notre petit intermède musical, le Moop Mama pour procrastination. Donc je vous invite à la procrastination créative. Donc là, on revient dans le hall du théâtre, dans le hall du théâtre La Passerelle. Et là, j'avoue, c'est mon coup de cœur de cette saison, de cet été. On a nos trois petites sorcières. Alors c'est Faune, hein, de la compagnie Libertivore, trois danseuses avec une dimension cirque aérien. Donc on a avec nous les trois danseuses, Nina Harper, Camille Guichard et Victoire Godard. Bonjour les filles.
Bonjour. Bonjour.
Vous nous proposez un voyage assez extraordinaire. Je ne l'ai pas encore vu, j'ai vu que les petits films, les petits teasers. Et j'avoue que je suis déjà envoûtée par votre proposition. Alors dites-nous, pourquoi le cerf ?
Alors, ce spectacle a été créé par la metteuse en scène Fanny Soriano, qui depuis plusieurs années travaille dans sa compagnie Le Lien de l'Humain et la Nature. Et pour une dernière création, elle avait utilisé un bois de cerf qu'elle avait trouvé dans la forêt, qu'elle avait trouvé un très bel objet, et qui est d'entre autres très solide, donc propice à servir de support pour la suspension. Et c'était une création avec beaucoup d'autres éléments. Et à la suite de ça, elle a eu envie de créer une nouvelle pièce avec les bois de cerf en honneur, vraiment au centre de la pièce, aussi comme une symbolique d'un sauvage qui est chassé et menacé par notre lien à l'environnement dans une société occidentale, et aussi comme une symbole du féminin qui est aussi en emprise dans ce contexte-là.
Donc le bois de cerf devient un agré de cirque pendant cette performance. Comment vous vous l'êtes approprié ?
Alors, on a fait pas mal de recherches techniques par rapport au bois de cerf. Donc il y a eu une partie autour de la suspension, donc où là il fallait à la fois trouver des espaces, des endroits d'accroche, parce que c'est une matière très particulière qui ressemble pas à d'autres agrès. Et après il y a aussi eu toute une partie manipulation que Camille a plutôt exploré.
Oui, avec les bois de cerf aussi, il y a une espèce de détournement de détournement où ils peuvent transformer le corps.
Comme un prolongement un peu de votre corps.
Un prolongement, un exosquelette, mais ça peut être aussi des objets, juste. Ils prennent d'autres images, ça crée des formes, des images, ça fait des métaphores aussi.
Vous avez, donc il y a de la danse, il y a de la suspension, hein, on sent que ça devient un agré à proprement parler, mais il y a aussi de la voix. Vous chantez ?
Oui, c'était un souhait de Fanny qu'il puisse avoir aussi de la voix comme une expression aussi de puissance et d'adresse de ces femmes. Et donc on a travaillé avec une merveilleuse femme qui s'appelle Karine Berny, qui a composé des chansons exprès pour le spectacle à partir d'écrits qu'on a fait ensemble dans des séances de travail. Voilà, qui nous a travaillé, nous a aidé à sortir la voix et à être en unisson et en même temps chacune dans sa propre voix.
Alors je me demandais, là, avec ce que vous me dites, est-ce que ce travail d'écriture du rapport au sauvage vous aide aussi à l'incarner dans votre corporalité ?
Ouais, je pense que ça demande pas mal d'endroits où on essaye de se raconter qu'est-ce que c'est le sauvage pour nous, quels sont les endroits d'empouvoirment pour nous, pour pouvoir nourrir l'interprétation, je dirais quelque chose comme ça. Et puis aussi pour avoir des points de rencontre entre nous.
De
se partager qu'est-ce que c'est le sauvage, qu'est-ce que c'est la féminité, etc. Et je pense que ça nous permet de...
Ça nous permet, je pense, d'avoir un langage qui est commun et en même temps d'avoir des singularités dans le rapport à qu'est-ce que c'est qu'une libération et un empouvoirment et comment être dans ces singularités tout en étant aussi un groupe.
Et vous incarnez tout différemment le sauvage ? Comment vous le décririez, vous, par exemple, votre côté sauvage ? Quelle couleur il a, votre sauvage, à vous ?
Je pense que c'est des couleurs assez différentes à chacune de nous. Moi, j'ai...
Il y a un animal qui vous a porté, au-delà du cerf, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a un animal qui vous a accompagné ?
Je pense qu'il y en a plein. Je pense que le spectacle aussi, ce titre faune évoque une large gamme d'animaux et d'animalités qui nous traversent le long de la pièce. Et je pense que c'est très présent dans le travail de Fanny, dans comment on a construit la chorégraphie de la pièce, des métamorphoses, et savoir qu'un corps, il peut être nourri de beaucoup d'animalités, de symboles différentes pour venir nourrir différentes parts de soi qui nous amènent de la puissance.
Et après, par rapport au sauvage, j'ai l'impression... Enfin, parfois, on a discuté entre nous et on s'est dit... Bon, au lieu d'utiliser tout le temps aussi cette parole, c'est quoi les autres mots ? Il y en a plein d'autres, on a des listes de mots, mais moi, je me demande aussi parfois... Ok, comment je fais pour avoir le meilleur, enfin le côté le plus brut de moi-même, le côté moins
policé,
lissé, ouais. Voilà,
que esthétique, que la société apporte.
Oui,
ou pas.
Oui.
Et alors, du coup, ça a donné quoi? Qu'est-ce qui est ressorti? Quel est votre côté brut?
Ça, je vais le découvrir encore.
Enfin, à chaque spectacle, c'est
oui, à chaque spectacle, redécouverte. On découvre des choses. Ouais.
Et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi dans le sauvage où en fait c'est ne pas être à l'endroit où on nous attend forcément, donc dans une espèce de forme de rébellion. Et du coup, comme ça passe par le physique, il y a comme quelque chose où en fait de laisser son corps parler d'abord et puis après, enfin de pas commenter tout de suite ce qu'on est en train de faire. Enfin, je pense notamment au moment de la célébration qui est une partie du spectacle où ça va être quelque chose de plus fourni en termes d'énergie, on va dire. Et là, je trouve que ça demande vraiment de poser son cerveau, de le mettre de côté et de laisser le corps partir dans des directions qui ne sont pas forcément réfléchies.
Donc une forme de spontanéité.
C'est un spectacle que vous pouvez jouer à la fois à l'intérieur et en extérieur. Est-ce que lors de vos différentes représentations, vous avez eu l'impression que ça a changé la perception du public ou vous-même peut-être votre travail?
Ouais, c'est très différent parce qu'en fait, quand on le joue en circulaire, par exemple, et que les gens sont très proches de nous, il y a quelque chose de très intime quand on partage ce spectacle avec des gens. Et effectivement, quand les gens sont plus loin, c'est un tout autre spectacle. Et là, c'est plus les images qui vont ressortir, plus les figures qu'on construit. Et je trouve que ça demande de mettre l'accent à différents endroits dans les deux configurations.
Et quand on joue dehors, il y a aussi tout ce qui nous entoure qui est un support pour nous, pour incarner le spectacle. Donc si on joue dans une forêt avec des arbres énormes autour, bah on va être forcément inspiré de ça et ça nous donne un endroit de où partir pour l'incarner. Alors si on joue dans un endroit plein de bitume, ça sera autre chose. Et si on joue dans une boîte noire, il faudra peut-être venir chercher plus du dedans et de la mémoire que de ce qui est autour. Moi, particulièrement, j'adore jouer en forêt, par exemple. Je trouve que c'est beaucoup plus facile.
Et vous? Vous êtes perdu en forêt?
Non, mais c'est intéressant de jouer ce spectacle dans plein de conditions différentes.
À chaque fois, c'est une réadaptation ou c'est une nouvelle aventure qui se propose?
C'est les deux, en fait. En salle et en frontal, si on joue en frontal, c'est une réadaptation.
Alors, tout à l'heure, on a évoqué le chant. Donc, vous avez dit que vous aviez travaillé ensemble pour écrire toute cette dimension du sauvage et du rapport de l'homme à l'ensauvagement. Est-ce que vous pourriez nous fredonner un petit quelque chose pour nous donner un appétit pour ce soir, 17h? Allez, un petit quelque chose. Au micro? Allez, oui, chantez un petit morceau pour nous donner envie pour ce soir 17h. Voilà, c'est extraordinaire.
C'est pas facile ce que vous...
Allez, un petit direct.
Donne ta parole, ô vivant et chante. Chante là ta révolte, la peur, la joie, au ventre.
Merci beaucoup.
Voilà, un bel aperçu de ce qui va se passer ce soir à 17h. Alors vous, chers auditeurs, vous ne faites que l'entendre. Nous, on est en face. On a une vague d'énergie incroyable. On a hâte de vous voir ce soir à 17h. Tu veux rajouter quelque chose, Oriana ?
Oui, je voulais vous demander, parce qu'apparemment, c'est une première partie d'un autre projet. Ça veut dire que vous travaillez sur une représentation beaucoup plus longue ?
Alors ouais, c'est une première partie d'un spectacle qui va s'appeler Fausse Fène et qui sera une déambulation que Fanny Soriano est en train de conceptualiser, ouais, qui est autour de la nuit, et ça, c'est une déambulation dans des espaces sauvages, naturels. Mais on commence la création à partir de mai, je crois.
D'accord.
Mai 27.
Alors voilà,
et ça sortira, je crois que ça sortira au Citron Jaune en 2027, à l'été 2027, il me semble.
Mais on va vous suivre.
À vérifier.
On va vous suivre. On tape Compagnie Libertivore, on vous trouve sur Internet. Alors voilà, chers auditeurs, une expérience sensorielle qui éveille notre part animale et nous fait rêver d'un autre futur. C'est ce soir à 17h au Parc de la Pépinière, Grande Pelouse, et demain, 7 juin, à 10h30, une expérience incontournable en ce qui me concerne. On en voit.
If you want it.
C'était Socio Ban Sainte et le morceau Midnight en direct sur RCF Alpes-Provence, RAM 05 et Fréquence Mistral à l'occasion de ce plateau autour du festival Touste Dehors. Nous sommes en direct depuis le hall du théâtre La Passerelle et nous recevons Cécile Le Guern pour Queen Amman qu'on va pouvoir voir cet après-midi. Alors Cécile, vous êtes mélomane puisque vous allez nous parler dans le spectacle Queen Amman d'un hommage à Freddie Mercury.
Oui.
Alors, c'est un hommage en spectacle de Majorette.
J'avais
une moustache. Ma première question, justement, concerne la moustache. Est-ce qu'il faut une moustache pour pouvoir être une Majorette dans Queen Amman ? Elle est essentielle, elle est même obligatoire. Les garçons n'ont pas le choix, en fait, c'est leur accessoire de costume pour toute la saison du spectacle. Voilà. Oui, oui, elle est indispensable, ouais.
Et donc, ce sera un hommage à Freddie Mercury, donc bien évidemment du groupe Queen. Ça,
oui.
Nos auditrices et auditeurs l'avaient deviné. Racontez-nous votre rencontre avec le groupe Queen. Vous dites dans une note d'intention que vous n'aimiez pas tant que ça Queen au départ dans vos jeunes années.
Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été attirée par le rock et notamment gamine par le punk rock. Et tous les genres musicaux autour, le hard rock aussi également, le rock plutôt classique, le rock 70s dont Queen faisait partie, le reggae, voilà, tout ce qui était un peu, mais aussi contre-culture. Et pour moi, Queen, à un moment où j'étais gamine, ne correspondait pas à quelque chose musicalement lié à la contre-culture. Alors que quand on connaît l'histoire de Freddie Mercury et de la formation du groupe, on est quand même en plein dedans. Mais c'était un son pour moi qui était trop grandiloquent. Il y avait quelque chose de trop... je trouvais qu'il en faisait un peu des caisses.
Majestueux. Hein
oui, oui. Et quelque chose de majestueux. Musicalement, c'était trop chargé. Il y avait trop d'informations, je pense, pour moi, pour ma petite caboche d'adolescente. Et donc, ça ne me touchait pas. Si, pourtant, enfant, un de mes premiers 45 tours, c'était le titre Kind of Magic de Queen, que j'ai écouté, mais je pense, des milliers de fois avec mon petit frère Arnaud dans la chambre. Donc ça, voilà, mais c'était les tubes radio me parlaient, mais tout ce qui était les albums, l'écriture, on va dire, globale de l'œuvre de Queen ne me touchait pas. Et c'est avec le temps, quand j'ai rencontré le papa de nos petites filles, Maï et Junette, il avait dans sa voiture le CD Best of de Queen qui appartenait à son garçon de 12 ans. Et là, on a commencé, lors des virées à la mer, en balade, tout ça, à écouter ce Best of. Et j'avais donc 30 ans. Et là, je me suis un petit peu arrêtée sur le son, les guitares, la construction des morceaux et surtout la voix de Freddie Mercury. Et je me suis remis à écouter du Queen, non pas de manière,
obsessionnelle ?
Non, oui, obsessionnelle, oui. Même pour la création, du reste, ça n'a pas du tout été une plongée obsessionnelle dans le love de Queen et l'histoire biographique, enfin la biographie de Freddie Mercury. Mais voilà, ça m'a touchée. Et entre-temps, entre mes 15 ans et mes 30 ans, j'avais fait une école de clown, le Samovar à Bagnolet. Et j'avais imaginé, quelques années après cette école, faire un numéro clownesque autour du personnage de Freddie Mercury dans le clip « I want to break free », où il passe l'aspirateur. Mmh. Et ce qui fait que pendant longtemps, j'avais imaginé jouer dans un cabaret avec un numéro où je serais une femme déguisée en homme, enfin costumée en homme, qui est lui-même costumée en femme. Donc il y avait déjà, j'étais un peu attirée par cette...
transformation.
Oui,
jeu de transformation.
Oui, voilà. Et c'est vraiment en 2020, quelques mois après l'arrivée de nos petites filles qui sont jumelles, que j'ai eu des mauvais, une mauvaise passe professionnelle. Voilà, je me suis retrouvée sans travail et avec mes deux petites poulettes. Et donc il a fallu que je trouve un rebond professionnel et artistique. Et maintenant que mes filles étaient là, je me suis dit bon sang. Si je devais faire le spectacle de mes rêves, qu'est-ce que ce serait ? Bon, et j'allais avoir 40 ans, puis il fallait que ça ait du sens. Enfin, c'était pas du tout pour que mes petites filles soient fières de moi, mais me dire, bon, bah, maintenant qu'elles sont là, c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce que je leur raconte ? Et je me suis dit, j'aimerais bien danser. J'aimerais bien danser à plusieurs dans la rue. Et sauf que je suis pas danseuse. Et j'aimerais bien qu'il y ait du rock. Mais comment amener du rock dans la rue et qu'on soit nombreux ? Je dis, ah mais oui, j'ai fait de la majorette petite. J'avais joué avec une compagnie de majorettes décalées du côté de Nantes, les Mijorettes, et ça m'avait énormément plu, ce rapport au public et à la danse abordable pour toutes et tous et très joyeuse. Et donc, voilà, ça a fait danse, rock, majorette. Ouais, je dis, mais bon, après faire de la majorette avec une équipe de minettes, bon, je l'ai déjà fait, il y a déjà une compagnie aussi qui existe à Nantes. Je dis, ah ouais, avec des gars, ce serait formidable. Et là, je les ai vus, j'ai fait, mon Dieu, Freddie Mercury, concert de Wembley, qui a une façon en plus de bouger avec son micro-bâton, comme une majorette, dans ses tenues, ses roulements d'épaule, c'est la façon dont il lève les genoux quand il danse. Et là, j'ai vraiment vu la brochette de garçon moustachu
avec un Marcel blanc et un jean et des baskets. Et hop, c'était parti. J'en ai fait part au papa de mes filles dès le lendemain matin, parce que tout ça était au terme d'une longue insomnie. Et il m'a dit, oh, c'est une super idée. J'ai appelé tous les garçons qui sont présents là sur le festival.
Vous les aviez tous en tête ?
Oui, tout de suite, ouais. Ouais, ouais.
C'est une bande de copains ?
Oui, il y a certains qui sont des copains de même amis de longue date. Mario, on se connaît depuis 26 ans. Olivier, on se connaît aussi depuis un moment. Denis, Anthony et Franz, on s'est rencontrés. On s'était déjà croisés, participés à des projets, mais assez brefs auparavant. Donc on se connaissait, puis c'était oui des potes, comme on dit. Et il y a Stéphane qu'on a rencontré grâce au chorégraphe Eric Martin, qui nous l'a présenté et qui nous a rejoint sur à partir de la deuxième saison. Rima, notre formidable régisseuse de tournée, que je connaissais via notre réseau Quai d'Échappe à Nantes et avec qui je m'entendais déjà très bien, de manière très, très fluide et très heureuse. Et donc, oui, j'ai pensé à eux. Et pardon, je vais dire un gros mot à la radio, mais quand je les ai appelés et que je leur ai dit « Bon, ben voilà, je voudrais monter une équipe de majorette, vous seriez en Freddie Mercury et je serais la capitaine », ils ont fait « Oh putain !» Mais tous, vraiment, ils ont fait cette réponse « Oh putain !» Je dis « Mais par contre, j'ai pas de sous. » Et puis, c'était juste après, le Covid est arrivé, les confinements. Enfin non, c'était... Oh, je sais plus. Et puis, on s'en fiche, là, à un moment, le calendrier. C'était pas une période très, très chouette pour tout le monde.
Et moi, j'avais une
oui,
question.
Oui, pardon, je parle beaucoup. Hein.
Quand même, hein, oui. Il faut maîtriser le lancer de bâton.
Oui, alors, dans l'équipe, comme disait le papa de mes petites filles, qui a participé et contribué à l'aventure, mais qui a arrêté l'année dernière, c'est un spectacle de circassiens recyclés en majorette. Puisque dans l'équipe, on a affaire à des anciens jongleurs, ou certains qui pratiquent encore, anciens acrobates qui ont travaillé tous dans le cirque et le jeu clownesque.
Alors la moustache est vraiment un symbole de virilité quand même, même si on sait que Freddie Mercury avait quelque chose de très viril et en même oui. temps un style très féminin dans sa manière de oui. se déplacer, de chanter, oui. etc. Vous avez réussi à réunir ces deux éléments-là dans votre spectacle.
Oui.
J'ai vu les extraits et ça rate pas, hein, on a envie de danser avec vous.
Ouais. De vous rejoindre.
Et qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce spectacle, ce conflit entre le féminin et le masculin, ou justement cette alliance qui peut être poétique entre le masculin et le féminin ?
Oui, plutôt, c'est super. Ce que vous me dites, c'est oui, une alliance. Je n'avais pas encore le mot, même 6 années après. Oui, c'est une alliance, puisque moi, par exemple, je ne porte pas de moustache ni réelle ni factice dans ce spectacle. La question ne s'est pas véritablement posée. Et moi, ça ne me posait aucun problème d'être dans les baskets d'un personnage, enfin d'une personnalité plutôt masculine. Et je ne me suis pas posé 36 000 questions, je vous avouerai. Et moi, cette cohabitation, elle me convient très bien. Et par rapport aux gars aussi, oui, ils ont la dégaine, effectivement, très virile. Mais dans les attitudes et dans le travail du chorégraphe Eric Martin, qui a apporté tout le précieux et toute la virtuosité à ce spectacle, parce que autant l'équipe est formée d'anciens circassiens, jongleurs, clowns, comédiens, mais aucun, hormis Stéphane, n'est danseur de formation. Donc ça a été un travail de longue haleine pour Eric Martin, pour nous transmettre les chorégraphies, et surtout il s'est mis à notre niveau de non-danseur, et il a écrit et composé des chorégraphies en ce sens, et comme elles nous sont abordables et en même temps très exigeantes, et ben il y a aussi il y a tout ce sensible qui est mis en valeur à travers l'effort qu'on fournit et qui est réel et qui est visible, vous verrez. Et que dire d'autre ? Ouais,
on sent que c'est profondément humain, hein, cette expérience que vous vivez, tous les interprètes et vous-même. Oui. Et on sent qu'il y a une sensibilité. Est-ce qu'il y a une place pour l'imperfection ? Si oui, quelle est-elle ?
Elle est technique, on va dire, parce que les imperfections, oui, il y en a, le bâton qui tombe. Des comptes de pas où on se retrouve à côté. Moi, je sais que la semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose qu'il m'arrive quand même très rarement. Je me suis littéralement plantée de sens pour rejoindre mes collègues sur le plateau. Je suis partie dans une direction à l'inverse. Donc là, il y avait un gros pain chorégraphique quand même. Pardon. Mais oui, elle est... Ben oui, parce que c'est imparfait. On ne cherche pas à présenter une performance...
pestaculaire.
Oui, voilà, et elle est imparfaite et en même temps, l'équipe donne le meilleur et on travaille beaucoup pour ce spectacle en tournée. Là, cet après-midi, par exemple, bah, comme il y a eu des soucis, notamment ma part, mais pas que, la semaine dernière, bah, on va faire ce qu'on appelle des raccords, on fait des notes et le travail chorégraphique est très exigeant. Et comme c'est pas notre discipline première, ça nous demande régulièrement de réajuster. Et quand on se trompe, l'équipe est tellement attachante et généreuse dans son interprétation. Et puis le public est avec nous. Il y a énormément d'empathie.
Est-ce que c'est peut-être justement ce caractère très humain et avec toutes ces imperfections dont vous venez de parler qui fait que le public est avec vous et qu'on a envie de se joindre à vous ? Vous ressentez ça ?
Oui, oui, puisque à la fin du spectacle, comme vous l'avez un peu évoqué, les gens viennent nous voir et disent oh, « on a envie de faire comme vous ». On a envie, et en fait, ce n'est pas tant de danser à la perfection ou d'être proposer des performances physiques complètement époustouflantes, c'est de s'éclater. Et voilà. Et ça, c'était moi le but de ce spectacle. J'avais envie de quelque chose de rock'n'roll, de solaire, de joyeux, de collectif. Et pour en revenir à mes petites filles, j'avais envie de leur qu'elles vivent aux côtés d'une maman qui s'éclate. Et je m'éclate avec les majorettes à moustache. Et je crois qu'ils s'éclatent pas mal aussi.
En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu. Donc, on va venir vous voir. Donc, c'est ce soir à 20h. Venez prendre un bain de Freddie Mercury, oui, façon Kuniaman bretonne.
Oui.
Voilà. Et demain, à 19h, donc, c'est Esplanade des Michel. Oui. Un moment rock'n'roll, un moment profondément humain. On a hâte de vous voir à ce soir.
Ben, merci. Merci pour votre invitation. Belle journée. Au revoir.
I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free.
Pas s'en empêcher. Hein. Bon, je vais pas. Si je le dis, je le présente quand même ce morceau.
Oh, bah, au cas où, histoire de.
Bon, I Want to Break Free de Queen, Freddie Mercury, on adore. Eh bien, c'est pas anodin ce morceau. Alors évidemment, il fait une transition parce que là, on reçoit une compagnie qui est tout en puissance également, la compagnie Acro Rap de Kader Atou pour le spectacle Prélude Out qui va donc se jouer donc ce soir à 19h et dimanche 7 juin à 18h à l'esplanade du conseil départemental. Et pour nous en parler, nous avons deux magnifiques danseurs, donc Damien Bourletis, bonjour Damien.
Bonjour.
Et on a Yann Mileto.
Ouais, Mieto, bonjour.
Mieto, pardon.
Mais il n'y a aucun souci.
Heureusement qu'on a préparé. Hein. Alors, de quoi va-t-il s'agir sur ce rendez-vous de danse? On m'a dit qu'il y avait une montée en puissance. Ça parle de quoi exactement ce rendez-vous?
Ça parle de quoi? Ben, en fait, c'est effectivement, c'est de la danse. Donc, c'est un spectacle donc, de la compagnie Acro-Rap, chorégraphié par Kader Atou. Et on est une équipe de 9 danseurs, donc il y a 2 danseuses et 7 danseurs. Et effectivement, c'est un moment qui monte en puissance, c'est un moment d'humanité dansante, c'est un moment qui part de la neutralité, qui part de quelque chose d'assez neutre et qui monte vers la transe, quoi, vers un lâcher prise. Et dans cette pièce, on a travaillé, enfin Kader, il a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Romain Dubois. Et en fait, on est vraiment en synergie avec cette musique qui part de rien et qui ne fait que monter, s'enrichir jusqu'à une délivrance finale. Et nous, danseurs, on a construit la pièce en essayant d'être vraiment à l'image de cette musique et de tenir cette musique. Et on essaie d'aller jusqu'au bout et de repousser nos propres limites personnelles par la force du groupe. Et c'est vraiment ça la puissance de cette pièce, quoi. Voilà.
C'est un spectacle qui dure 35 minutes.
34 minutes, je dirais même.
Ouais, c'est très important pour nous, une minute de moins.
Bon, faut avoir un super cardio, là.
Oui.
Ouais.
Alors, c'est quel genre de danse?
C'est de la danse hip-hop. On est tous danseurs hip-hop. Il y a quand même des filles qui ont aussi une formation plus académique, contemporaine, un peu classique. Aline qui touche aussi à la danse hip-hop, au popping. Et Alexia qui est... plutôt contempo, mais oui. Qui va vraiment vers l'énergie hip-hop aussi.
On va dire qu'on est tous liés par le hip-hop, mais on a tous des singularités quand même qui nous différencient les uns des autres. C'est ce qui fait aussi une des richesses de cette pièce, parce qu'on est tous très différents sur nos façons de bouger individuelles, et on se retrouve sur des chorégraphies hip-hop de groupe, où il y a une solidarité, un mouvement de groupe qui est très... où l'individualité n'a plus sa place, on est vraiment ensemble, et quand on réexplose et qu'on reprend chacun un petit peu des parties de la pièce tout seul, on peut se réexprimer chacun comme on le fait le mieux. Moi, par exemple, j'ai une gestuelle très acrobatique, c'est comme ça que je m'exprime le mieux. Comme il disait, les filles, Alexia, elle a plus quelque chose de contemporain, un peu hip-hop, il y a des poppers qui bloquent les muscles avec le corps, je sais pas si vous connaissez.
Non, pas du tout.
Et on a des parties communes où on fait tous exactement la même chose, et on se retrouve, et là, il y a... une synergie commune qui est très très forte et qui est super pour nous, parce que du coup on se retrouve tous ensemble avant de réexploser et de se réexprimer différemment.
Et c'est vrai que donc Kader vient du hip-hop et travaille avec des danseurs hip-hop, mais pas que. Il a une écriture donc qui puise en tout cas sa force et ses origines dans le hip-hop. Mais il y a quand même dans son écriture une sensibilité qui va au-delà et qui emmène la danse hip-hop finalement... ailleurs, parfois certains y voient quelque chose de contemporain, même si nous on n'a pas la sensation dans ce hip-hop de faire de la danse contemporaine, mais on y met une sensibilité en fonction du propos, de la musique, et du coup on peut y voir qu'une écriture un peu contemporaine finalement au sens actuel, une évolution, etc. Voilà.
Est-ce que rapidement vous pourriez nous dire quand même qu'est-ce qui fait cette couleur qui est le hip-hop? Tout à l'heure, vous parliez de différence, d'appropriation. Donc, j'imagine que quand vous êtes 9 danseurs, vous respirez ensemble. Mais qu'est-ce qui fait cette particularité du hip-hop?
Ouais, le hip-hop, c'est compliqué, mais...
Pour moi, il y a quelque chose de très propre à l'identité personnelle, déjà.
C'est une danse de la rue.
C'est une des rares danses où il y a de la place à presque tout dedans. On montre vraiment qui on est, parce qu'il y a pas, il y a des codes, mais c'est des codes qui laissent la place quand même à pas mal de liberté. Par rapport à une danse, par exemple, classique ou contemporaine, il y a vraiment des codes très précis qu'il faut respecter pour rentrer dedans et dire je fais de la danse classique, sinon c'est plus de la danse classique, par exemple, c'est autre chose. Ou même dans des sports acrobatiques comme la gymnastique, si on fait pas certains mouvements d'une certaine façon, c'est plus de la gymnastique, c'est autre chose. Dans le hip-hop, il y a des codes communs, mais on est très très libre sur la façon de s'exprimer. Et du coup, c'est ce qui fait la particularité de cette danse, c'est que on peut s'exprimer un peu comme on est. Et du coup, chaque danseur est très, 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 très différent. Et c'est super, nous on aime bien ça.
Mais effectivement, il y a quand même eu une énergie brute, oui. Une énergie revendicative qui vient, voilà. Qui vient effectivement de la rue à la base. Et c'est ce qui donne un petit peu cette force caractère à la danse hip-hop. Et comme il disait, il y a des du vocabulaire. Il y a d'ailleurs plusieurs disciplines dans la danse hip-hop. Il y a, tout à l'heure, il parlait de. En fait, il y a du popping. Il y a du break, il y a différentes disciplines, du lock aussi. Mais en tout cas, à l'intérieur de ces disciplines-là, il y a du vocabulaire précis sur certains mouvements que chacun apprend et travaille et s'approprie après à sa manière, peut le transformer, peut le décliner et s'exprime avec à sa façon. Moi, c'est ce qui fait vraiment la force du hip-hop. Ce que j'ai aimé, c'est ça, quoi. C'est cette façon de pouvoir s'approprier cette danse, ce vocabulaire et de le retranscrire à sa façon, de s'exprimer avec à sa façon, quoi.
A priori, dans le hip-hop, il n'y a pas deux danseurs pareils, normalement. C'est ce qui fait un peu la richesse du truc et ce qui est très agréable pour nous. Et Kader, il respecte beaucoup ça. Quand il recrute ses danseurs avec qui il travaille, s'il te choisit, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose en toi qui lui parle. Il ne veut pas que tu sois quelqu'un de différent. Par contre, quand on fait les travails de groupe chorégraphique, là, à ce moment-là, il faut mettre de côté ses singularités. Il ne faut pas essayer de briller par une certaine façon, quoi. On se retrouve tous ensemble pour faire quelque chose de commun. Et après, quand on s'exprime tout seul, on est plus libre. Et Kader, s'il nous a choisi, c'est parce qu'il aimait quelque chose de nous, qu'il veut garder cette individualité qui nous définit, quoi. Voilà.
Il y a une belle notion du collectif et sans perdre son individualité, hein, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous avez de la place pour improviser, notamment justement quand vous avez vos danses individuelles? Quelle est cette place-là, ou est-ce que c'est chorégraphié malgré tout?
En fait, c'est chorégraphié, mais on a de la place pour l'improvisation à des moments. Il y a des rendez-vous, en fait. Il y a des trucs très chorégraphiés. Il y a une structure à des moments. On sait que musicalement, on doit être à tel endroit. On sait qu'on doit être à telle place. On sait qu'on rencontre quelqu'un à un moment donné. Il y a des choses écrites et parfois, il y a une vraie place à la spontanéité du moment, ce qui se laisse vivre dans l'instant. Et il y a des rendez-vous, ce qu'on appelle nous des rendez-vous, quoi, d'écoute musicale, etc. Et les parties solo sont assez libres finalement, même s'il y a des choses quand même écrites.
Libres, mais en respectant quand même une énergie ou un état de corps que le chorégraphe voulait. Et après, dans le mouvement, on fait ce qu'on veut. Et si ça lui plaît, il nous dit très bien, continue comme ça. Et il veut qu'on exprime quelque chose, mais on n'a pas de mouvement précis qu'il nous demande de faire. C'est ça qui est très agréable. Du coup, on le fait comme nous, on le sent. Et si ça rentre dans ce qu'il demandait, ça marche. Quoi. Et des fois, d'un spectacle à un autre, on peut faire quelque chose de différent dans les moments solo. Et c'est possible que le chorégraphe regarde, j'ai bien aimé ce que tu as fait, continue, refais-le la prochaine fois, ça m'a plu, ou refais comme tu faisais avant plutôt.
Ouais, y a même...
Spectacle vivant, quoi.
Est-ce que vous vous influencez entre vous quand vous dansez? Il y a une énergie comme ça qui se propage entre vous, il y a des influences?
Au moins inconsciemment,
évidemment,
je pense.
Évidemment, c'est des influences positives qui nous poussent à aller plus loin, même dans l'entraînement.
Même techniquement, simplement,
Souvent, on s'entraîne avant, on se prépare et en fait, il y a un échange, quoi. Et puis, comme il y a des figures quand même communes, il y a un vocabulaire commun, on se retrouve là-dedans et puis chacun fait. Puis, il amène une petite touche personnelle et du coup, on essaie.
On essaie tous d'aller dans le monde de l'autre, qu'on n'est pas notre spécialité. Oui. Par exemple, Damien qui a un peu un profil très complet, il voit Alexis qui fait 5 tours sur la main, il va essayer de le faire aussi, il va faire un tour. Après, Damien va donner des conseils sur des mouvements debout que moi, je maîtrise moins et je vais aller dans son monde à lui. C'est un gros partage pour nous, c'est génial. Hein.
C'est top. C'est une vraie aventure. On parlait tout à l'heure de la force du groupe, de la différence, de la singularité. Et c'est aussi en dehors de la pièce, en fait, qu'il se passe ça, avant tout même, en dehors de la pièce. Et c'est aussi ce que cultive beaucoup Kader Atou dans sa façon de travailler, de manière générale. Et d'ailleurs, au début du spectacle, il y a un texte d'Albert Camus qui parle vraiment de ça, de la force de la différence et de la force du groupe, de chaque artiste, etc. Vous le découvrirez tout à l'heure, si vous venez.
Et le hip-hop, c'est une danse de rue. Vous avez un gros contact entre vous. Il y a un fort lien. Est-ce que vous avez ce lien-là aussi avec les spectateurs? Quel est le dialogue que vous entretenez avec les spectateurs quand vous faites des représentations?
Si je peux me permettre une toute petite correction. Le hip-hop, on aime bien le dire comme ça, c'est quand même une culture qui englobe plusieurs choses. Dire du hip-hop que c'est une danse, ce serait un peu faux, parce qu'il y a plein de gens qui disent « je fais du hip-hop ». Normalement, on ne peut pas faire du hip-hop, parce que c'est une culture qui englobe plusieurs choses, dont la danse. Il y a la musique, il y a le graph, il y a le beatbox, il y a le DJing, il y a le MCing, la personne avec le micro, et il y a la danse dedans.
C'est beaucoup plus complexe.
C'est ça. C'est compliqué de dire « je fais du hip-hop ».
C'est un mouvement culturel à part entière.
C'est un mouvement culturel à part entière, carrément. Et il y a la danse qui est une grosse partie de ce mouvement, et même dans la danse hip-hop, il y a plusieurs catégories, le break, le pop, le lock, il y a plusieurs choses différentes. Voilà. Du coup, la question, désolé.
Oui, oui, c'est ça.
Et donc, votre rapport
au public. Ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est que vraiment, Kader, il a voulu ramener son écriture chorégraphique qu'il fait depuis des années en théâtre, scène, etc., dans la rue, pour revenir à vraiment cette énergie hip-hop qui est née là, et partir à la rencontre du public. Oui, il y en a plein, voilà, il y a plein de personnes qui peuvent pas aujourd'hui rentrer dans les théâtres, quoi. Voilà, c'est pas évident aujourd'hui, et donc c'est ça, aller vraiment à cette rencontre-là, et donc c'est hyper intéressant pour nous, parce qu'on a vraiment une vraie proximité dans cette pièce. Et on a les gens tout autour de nous, on a une proximité, des fois on fait un mouvement, on est à 20 cm, c'est hyper intéressant. Il y a quelque chose qui se transporte, ils sont aussi avec nous vachement dans la musique du coup.
Particulièrement dans cette pièce-là du
coup en plus. Ouais. Et du coup il y a un vrai partage, et à la fin ça nous permet aussi, ils viennent nous voir, on se rencontre et ça casse aussi cette barrière-là où parfois on sort de scène, on va dans les coulisses et il y a des personnes qu'on ne voit pas quoi. Et là c'est vraiment bien, c'est direct.
Oui, puis il se passe vraiment quelque chose qui est propre un peu hip-hop, le partage. Même hier, simplement, on finit, il y a des enfants qui viennent nous voir. Regarde, je sais faire ça, est-ce que tu peux me donner un conseil? Et le hip-hop, c'est carrément ça. Du coup, c'est super agréable de retrouver ça. Et je pense que c'est même important pour nous de le retrouver. C'est cool, les cadres, ce qu'il a fait, ouais, ça marche bien.
Et ce qui est bien, c'est que cette pièce-là, elle a été écrite au départ pour la rue, donc elle fait 34 minutes. Mais on a aussi créé une version de 1h15 qui se joue au plateau avec une création lumière, avec toute une partie avant où Kader est avec nous sur scène. Il raconte son histoire, ses inspirations, quelque chose d'assez intime et assez poétique aussi, qui nous emmène petit à petit vers cette deuxième partie-là.
Derrière le hip-hop, il y a une revendication d'identité,
oui,
de
évidemment.
Valeur.
Oui, oui.
Alors, allez-y, dites-nous.
Moi, je dirais une envie d'exister, et déjà avant tout. C'est pas que dans le hip-hop, mais en tout cas dans le hip-hop, il y a vraiment ça, une envie d'exister, de dire je suis là, voilà qui je suis, et voilà qui on est, on existe. Et voilà, oui, je pense qu'il y a beaucoup
ça. Et puis c'est tellement propre à chacun que selon la personne, on le fait pas forcément pour les mêmes raisons. On sait très bien que ça a commencé à New York pour certaines raisons, mais il y en a qui ont commencé simplement pour s'ambiancer dans les clubs de musique, d'autres parce qu'ils n'avaient pas d'autre façon de s'exprimer, ça leur faisait du bien. Ça englobe quand même plein de choses. Voilà.
Non, mais je crois qu'on a fini. Merci beaucoup, messieurs. Non, mais on va
merci, c'était un plaisir.
On peut en parler, hein, mais le plaisir va être à le vivre avec vous, ce spectacle. On termine, Lucie, je te laisse finir.
Oui, on peut rappeler quand même qu'on peut vous voir donc ce soir, samedi 6 juin à 19h et demain soir également à 18h. Ce sera sur l'esplanade du Conseil départemental. Vous êtes venu nous parler du spectacle Prélude Out, un spectacle de danse hip-hop. Et on peut accéder à vous, discuter avec vous à l'issue de ce spectacle. On l'a compris. Et nous, on termine donc notre plateau en direct du hall du théâtre La Passerelle sur RAM 05, RCF Alpes-Provence et Fréquence Mistral. Merci.
Merci
à vous.
Merci.
Suzanne Dogoz.
Oriana Castro.